C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Et en cette dixième saison, une formule plus concentrée, mais une certaine pérennité, comme celle de retrouver des partenaires du jeudi. Le jeudi, c'est écologie. Et aujourd'hui, c'est Bretagne vivante avec des chauves-souris.
LEM, l'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère bien vivant, pas forcément humain. La voix des non-humains, on la trouve du côté des associations naturalistes et en particulier Bretagne vivante, qu'on retrouve encore une fois par mois en cette saison avec grand plaisir. Il y aura donc des plantes et des animaux, des insectes, des amphibiens, des oiseaux et des mammifères. Et c'est le cas aujourd'hui. Quel est le seul mammifère qui vole? Qu'est-ce qui mange les moustiques notamment? Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit parce qu'on n'entend pas les sons qu'elle émet, donc on ne va pas vous en faire entendre? Qu'est-ce qui a une drôle de tête et qui a longtemps fait peur aux humains, mais plus maintenant, hein? Qu'est-ce qui a inspiré un super-héros qui n'a d'ailleurs pas de super-pouvoir, si ce n'est sa fortune? Bon, j'arrête mon petit jeu Batman, les chauves-souris, et c'est Sarah Costard pour Bretagne Vivante qui vient nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ces chauves-souris, il en existe beaucoup d'espèces, et même en Bretagne, il en existe plusieurs dizaines.
Oui, on a 36 espèces en France et 22 en Bretagne.
Alors, elles sont assez petites hein, dans l'ensemble. On n'a pas les grandes espèces africaines, c'est ça? C'est quoi la plus grande ou la...
Dans la plus grande, on va avoir la grande noctule et le grand rhinolophe et le grand murin aussi.
Qui font quelle envergure, en gros? Quelques centimètres.
Quelques centimètres, ouais. La plus petite, la pipistrelle, elle fait à peu près la taille d'un pouce. Donc nous, on est à peu près... La grand rhinolophe, par exemple, c'est la taille d'un poing fermé.
Ah oui, c'est souvent, vraiment petit. Hein.
Ouais, c'est à peu près deux mains mises côte à côte.
Voilà, quand elles étendent leurs ailes, quoi.
C'est ça.
Et donc, elles sont discrètes, puisque forcément, elles vivent la nuit, vous allez nous expliquer ça. Mais 22, ça fait quand même 22 espèces dans le Finistère, c'est pas mal quand même. Mais alors, elles ne sont pas toutes représentées de la même façon, c'est
non,
ça?
Non, c'est ça. Certaines sont plus communes que d'autres. Donc, par exemple, la grande noctule, on ne va pas la retrouver beaucoup en Bretagne, mais ça ne veut pas dire qu'on la retrouve beaucoup, qu'elle va avoir un fort enjeu, en tout cas pour la Bretagne. Notamment, donc, ceux qu'on est fort enjeu, on va retrouver le grand rhinolophe, donc surtout dans le Finistère. En Bretagne, on va retrouver 17% de la population nationale. Donc, on a à peu près 15 000 individus de grand rhinolophe. Et la majorité de ces individus sont présents dans le Finistère.
Donc, les grands rhinolophes aiment le Finistère et on ne sait pas pourquoi. Si.
Ben, ça peut. Il y a plusieurs hypothèses, notamment la météo, les conditions météo qui seraient plus favorables. Et aussi une plus forte concentration de gîtes favorables pour cette espèce.
Voilà, alors les chauves-souris, bon, elles ont évidemment des modes de vie différents selon les espèces. En gros, pour le grand rhinolophe, par exemple, qu'est-ce que c'est, quels sont les gîtes, comment elles vivent?
Eh bien, en fonction de l'été ou l'hiver, elles ne vont pas chercher les mêmes types de gîtes. Par exemple, en hiver, elles vont chercher des gîtes qui sont plutôt calmes, à l'abri du vent, de la lumière, avec des conditions qui restent constantes, donc autour de 10 degrés à peu près, avec des forts taux d'humidité, donc pour préserver les ailes. Donc on va les retrouver dans les bunkers, par exemple. En Bretagne, on en a quelques-uns.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de... Donc ça, c'est spécifique au grand rhinolophe ou non?
On en retrouve d'autres espèces aussi, le grand murin notamment, et plein d'autres espèces, le murin oreiller chancré aussi. On va également les retrouver aussi dans les caves des maisons. Donc c'est possible qu'on en ait chez nous l'hiver.
Et oui, encore faut-il le savoir. Ou même dans les greniers éventuellement, non?
Elles vont plutôt chercher les températures constantes, donc elles vont plutôt aller dans les caves.
Ouais. Oui, c'est mieux isoler une cave souvent. Et il y a des chauves-souris qui habitent juste dans la nature
Oui, on va retrouver des chauves-souris dans les anfractuosités. Donc ça peut être aussi sur dans les trous dans les maisons, mais dans les arbres aussi. Donc ça peut être derrière une écorce ou dans un trou. Par exemple, les pics, comme le pic noir ou le pie vert, ils peuvent faire des trous dans les arbres et les chauves-souris vont réutiliser ces trous-là pour pouvoir se mettre.
Et alors, ces chauves-souris qui habitent dans les arbres, elles habitent toutes seules. Enfin, voilà. Autant on imagine celles qui habitent dans les bunkers à plusieurs, autant celles dans les arbres, peut-être pas
Non, ça dépend. Ça dépend des espèces et ça dépend aussi de la période. Donc si c'est en été, elles vont plutôt se retrouver en colonie. Donc là, on peut avoir des dizaines, des vingtaines, peut-être 100 individus dans un même endroit.
Et alors, quel est le cycle de vie d'une chauve-souris? Je crois qu'elles hibernent. Enfin, comment ça se passe sur une année, en gros, quoi? Parce qu'évidemment, ça dépend des espèces aussi. Mais...
Oui, effectivement. Et ben, en automne, là, donc, de septembre à novembre à peu près, elles vont débuter la reproduction. Elles vont également faire le transit hivernal, donc changer de gîte, comme je vous ai dit, du gîte estival vers le gîte hivernal. Elles vont faire aussi un plein de réserves. Elles vont beaucoup manger pour pouvoir survivre à l'hiver. Et donc voilà, donc c'est pas rare de les voir voler, d'essayer de tester des nouveaux gîtes, donc notamment de les voir entrer dans vos caves pour voir si ça pourrait leur convenir pour l'hiver. Après, de novembre vers mars, elles vont hiberner, donc elles vont se mettre, elles vont diminuer leur rythme cardiaque, diminuer leur température, elles ont quelques degrés de plus que la température de leur gîte. Et là, c'est une période qui est vraiment critique parce que le moindre dérangement, ça les oblige à se réveiller, donc à utiliser leur énergie qu'elles avaient gardée pour pouvoir passer l'hiver. Donc c'est important de pas du tout les déranger. Si on en croise, c'est possible d'en croiser dans les bunkers, et ben, de faire demi-tour parce que même notre chaleur corporelle peut changer la température du milieu. Les éclairer, ça peut les embêter, les réveiller, etc. Donc c'est important, c'est une période qui est assez critique pour les chauves-souris.
Donc quand il y a des grilles sur les bunkers, c'est souvent parce qu'il y a des colonies de chauves-souris.
Enfin, possible,
ça ne s'appelle pas colonie quand elles hibernent, si ça s'appelle
colonie?
Non, on ne
parle pas de colonie, on parle juste... on n'utilise pas le terme colonie.
Et donc elles hibernent en groupe, quoi. Enfin, en tout cas les grands rhinolophes.
Oui, d'autres espèces aussi. Il y a même des fois, on retrouve différentes espèces qui se collent, notamment le murin échancré. À oreille échancrée, on peut le retrouver avec le grand rhinolophe. Également les grands murins. Souvent, ils vont faire deux tas différents, mais ils peuvent cohabiter.
Ouais, il n'y a pas de guerre inter-espèces, c'est pas comme les fourmis. Là. D'accord. Et donc, alors, elles dorment jusqu'en mars.
Enfin, oui, ça dépend des espèces. Mm-hmm. Certaines vont se réveiller plus tôt. Le grand rhinolophe, il peut se réveiller de temps en temps. En Bretagne, on a des températures qui sont relativement douces, donc on peut retrouver des insectes encore un peu en hiver. Et donc, elles peuvent se réveiller et chasser. Mais ça, c'est particulier de la Bretagne, en tout cas.
Mm-hmm. Et quand elles se réveillent, c'est là qu'en fait, elles se reproduisent, même si... Enfin, vous allez nous expliquer leur cycle de reproduction qui est quand même étonnant.
Oui, en fait, donc elles se reproduisent durant l'automne et les chauves-souris sont capables de mettre de côté les spermatozoïdes, donc de pas enclencher la fécondation. Donc, elles ont une spermathèque pour mettre les...
Interne,
c'est ça. Mmh. Pour mettre les spermatozoïdes, pour éviter de perdre de l'énergie durant l'hiver. Parce que avoir un petit... plus être en léthargie, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources alimentaires. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent de côté ces spermatozoïdes et dès qu'elles vont se réveiller, après, en mars, ça dépend après des espèces, elles vont enclencher la fécondation et la gestation, ça va durer entre un mois et demi à deux mois.
Et ça veut dire que... Mais il y a quand même des accouplements au printemps, peut-être, non?
Non, c'est vraiment période de l'automne. En hiver, c'est possible qu'il y en ait également. Certaines sont réveillées et... Ça arrive.
Ah mais c'est contrairement à beaucoup d'animaux, donc les mâles chauves-souris sont pas du printemps. Si c'est vrai, il y a beaucoup d'animaux qui s'accouplent en automne évidemment. Donc quand elles se reproduisent, vous disiez, enfin quand elles sont en gestation, les femelles, là elles sont entre elles, c'est ça?
En fait, ce qu'elles vont faire, c'est que donc durant la période de printemps, donc mars à mai, juin, elles vont aller aussi rejoindre leur gîte estival. Et ce qu'elles font, on parle de colonies, et c'est les chauves-souris vont se rejoindre en colonies de femelles. Il peut y avoir quelques mâles qui se baladent par-ci par-là, mais c'est surtout des femelles. Et donc, elles vont chercher des lieux qui sont plutôt chauds. Donc, on va les retrouver dans les combles des églises, dans les greniers également. C'est là où on va avoir pas mal de cohabitation entre particuliers et chauves-souris. Et on peut avoir pas mal de SOS chauves-souris, si jamais il y a des petits qui naissent et qui tombent par terre. Donc on est souvent sollicité pour ça. Et donc les petits vont mettre à peu près, ils vont naître, donc les plus précoces, c'est fin mars, et ça peut aller jusqu'à fin juin, à peu près mi-juin. Ouais,
elles ne mettent pas de bas tout en même temps, en fait.
Non, mais c'est assez constant. Enfin, ils sont relativement en même temps, mais il peut y avoir des petites latences, des petits délais entre chaque individu. Et après, voilà, ils mettent 6 mois à peu près pour être indépendants. Donc après, la mise bas, c'est jusqu'à à peu près fin août, on peut avoir encore des jeunes chauves-souris chez soi.
Donc, on ne sait pas, enfin, les colonies, il n'y a pas un nombre de chauves-souris, il faut pas, minimal ou maximal, non?
Non, ça dépend beaucoup des espèces. On peut avoir des petites espèces, enfin des petites colonies. Par exemple, pour le petit rhinolophe, c'est un proche parent du grand rhinolophe, mais lui, il est tout petit. C'est vraiment très mignon. Et lui, par exemple, il peut faire des colonies l'été de 4 individus, par exemple. 4 ou 5 individus. Et d'autres, on a des colonies de 300 individus, 1000 individus, ça dépend. C'est très variable en fonction du gîte, la capacité d'accueil du gîte et de l'espèce.
Et l'intérêt d'être en colonie pour les femelles, c'est qu'une fois qu'elles ont mis bas, elles font une garde partagée, c'est ça.
En fait, au tout début, donc quand le petit vient juste de naître, elle garde le petit avec elle. D'ailleurs, c'est très intéressant, les grands rhinolophes ont des fausses mamelles pour que le petit puisse s'accrocher durant le vol. Et après, ce qu'elles font, les chauves-souris, elles laissent leurs jeunes en groupe. Donc tous les jeunes se regroupent au même endroit. Et on va avoir des femelles qui vont les garder pendant que les mères vont aller chasser. Elles reviennent, elles nourrissent leurs petits, elles retournent chasser, etc. Donc on a des gardes.
D'accord. Et quand le petit, il n'est pas dans un nid, il n'y a pas vraiment de nid. Hein, donc il reste accroché au plafond. Quoi.
Oui, les chauves-souris ne font pas de nid. Et elles ne vont pas détruire l'isolation comme ce qui peut être sous-entendu. En fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont souvent s'accrocher au niveau des poutres dans les toitures et elles vont juste se pendre la tête en bas. Et voilà. Donc les petits, ils s'accrochent très rapidement.
Et est-ce que c'est vrai que les chauves-souris ne peuvent pas décoller, qu'il faut toujours qu'elles soient en hauteur pour pouvoir s'élancer, ou est-ce que c'est une légende urbaine ?
Ça dépend des espèces, encore une fois. Par exemple, le grand murin, c'est une espèce qui est glaneuse. Elle va chercher des petits carabes, des petits scarabées au niveau du sol, ça peut. Donc ce qu'elle fait, c'est que dès qu'elle repère un carabe, elle va se poser, le manger et se renvoler. Mais toutes les espèces ne sont pas capables. Par exemple, le grand rhinolophe, lui, non, il serait incapable de s'envoler depuis le sol. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de grimper. Ils ont au niveau de l'aile, c'est comme une main et le pouce est en haut. Et il y a une petite griffe au niveau du pouce, ça leur permet de grimper. Et s'il arrive à trouver un arbre, il va pouvoir remonter et pouvoir descendre. Mais sinon, s'il n'a aucune possibilité de monter, il est condamné.
Ah oui, donc une chauve-souris par terre, s'il faut quand même l'aider ou pas ? Qu'est-ce que vous conseillez ?
Les chauves-souris sont toutes protégées, donc normalement, il n'y a pas le droit de les toucher, de les déranger et de détruire leur gîte. Et nous, on a des habilitations spéciales pour pouvoir le faire. Dans tous les cas, il ne faut jamais toucher une chauve-souris à main nue, parce que c'est une espèce sauvage et ça peut transmettre des maladies. Donc, si jamais, déjà, il faut nous appeler pour savoir exactement, pour nous expliquer le cas en particulier. Et si jamais on ne peut pas se déplacer ou le cas n'est pas grave, il faut s'il ne faut jamais la toucher, il faut mettre des gants en cuir pour être sûr qu'il n'y a aucun problème. Et souvent, on peut la laisser repartir la nuit, elle se renvole si on la met en hauteur.
D'accord. On la met en hauteur dans un arbre, par exemple.
Mais vaut mieux nous appeler avant pour être sûr qu'il n'y a pas de danger pour nous.
Et à part les humains, quels sont leurs prédateurs, si elles en ont
Elles ont des prédateurs naturels et aussi des menaces anthropiques. Donc pour les prédateurs naturels, on va retrouver les chouettes. Certaines chouettes peuvent se spécialiser dans les chauves-souris. Donc ça nous est arrivé de perdre des colonies parce qu'une chouette les avait détecté la colonie. Et forcément, elle aussi, elle a des petits à nourrir. Donc elle détecte où sortent les chauves-souris, elles se mettent devant et elles chassent comme ça.
Ah oui.
Il y a les chats aussi.
Ouais, ça, les chats, j'ai déjà vu mon chat attraper une chauve-souris, c'est vrai.
Donc
c'est fou, ça.
On conseille, quand les chats se spécialisent un peu trop sur les chauves-souris, de les rentrer le soir. Comme ça, il y a moins de problèmes.
Mais c'est parce qu'il y a des chats qui aiment particulièrement chasser les chauves-souris.
Les chauves-souris, quand elles vont sortir de leur gîte, elles vont tendance à utiliser tout le temps le même chemin. Et donc, elles vont faire comme une sorte de petite courbe, elles vont aller proche du sol. Et là, c'est hyper tentant pour un chat de voir des choses voler. Il y a juste à taper et c'est voilà. Et les griffures de chat, ça peut apporter pas mal de maladies. Et des fois, c'est létal, très souvent pour la chauve-souris.
Elles sont menacées en Bretagne.
Elles sont toutes menacées, toutes protégées. Et donc après, ça dépend des espèces. Certaines se portent mieux que d'autres. On a des espèces comme le murin oreiller chancré qui a tendance à bien se porter grâce au réchauffement climatique. Il profite du réchauffement climatique pour aller s'étendre un peu plus vers l'ouest. Donc il y a quelques années, on n'en trouvait pas dans le Finistère, et maintenant, on en trouve de plus en plus. Et il y a d'autres chauves-souris qui se portent beaucoup moins bien, comme le murin de Daubenton. Ça, c'est une espèce qui est affiliée aux zones humides. Donc, comme les zones humides ne se portent pas très bien en France et dans le monde de manière générale, elles aussi, elles en pâtissent. Et souvent, c'est les chauves-souris qu'on va retrouver voler au-dessus des surfaces d'eau. Et donc, quand on a un cours d'eau, c'est possible de les voir voler. Et souvent, c'est des murins de Daubenton. On va les retrouver aussi sous les ponts.
Mais la nuit, quand même.
Mais la nuit. Mais même quand il y a un petit peu, enfin au début de nuit, on peut les voir voler.
Ouais. Elles vivent toute la nuit, il n'y a pas d'espèce qui vit le jour.
Elles sont toutes nocturnes.
Et qu'est-ce qu'elles mangent d'ailleurs, les chauves-souris?
Elles sont toutes insectivores, ça veut dire qu'elles mangent des insectes.
Il n'y a pas de frugivores chez nous, quoi.
Non, non, non.
Bon, et donc c'est aussi un de leurs rôles et une des menaces qui pèsent sur elles, parce qu'on n'a pas fait le tour des menaces anthropiques, mais à part la disparition des zones humides, quels sont les problèmes qu'elles rencontrent à cause des humains, les chauves-souris?
Bah déjà, comme elles mangent des insectes, dès qu'on utilise des insecticides, ça leur détruit leurs ressources alimentaires et donc forcément, elles en pâtissent. Après, on a tout ce qui va être rénovation externe des bâtiments. On fait de plus en plus de rénovation externe. Donc, on leur bouche les entrées qu'elles pouvaient avoir vers nos greniers. Et donc, souvent, on fait ça l'été, là où il y a les chauves-souris dans les maisons. Et donc, on ne sait pas forcément qu'on a une colonie chez nous. Et on ferme leur entrée et elles sont condamnées à l'intérieur des bâtiments. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Après, il va y avoir aussi la coupe de haies. Les chauves-souris vont utiliser les haies comme des réseaux, on appelle ça des corridors écologiques, pour aller, par exemple, de leur gîte vers leur zone de chasse. Il y a des chauves-souris ici qui vivent dans les arbres, et donc notamment les vieux arbres, parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de trous, des choses comme ça. Et donc le fait d'abattre ces vieux arbres, ça peut décimer des colonies qui étaient dans le trou, et que quand l'arbre tombe, c'est fini pour elles, quoi.
Vous parlez des corridors, ça veut dire qu'elles ne se déplacent pas forcément qu'en volant
Elles peuvent utiliser la vue. Les chauves-souris ont une bonne vue, à peu près comme nous. Elles voient même mieux que nous en début de nuit. Elles ont plus de bâtonnets, c'est des cellules spécifiques qui permettent de mieux voir la nuit. Et donc, elles peuvent utiliser la vue pour gérer leur altitude, pour suivre des corridors. Et il y a même des hypothèses comme quoi elles seraient capables de s'orienter grâce aux étoiles. Parce qu'il y a des chauves-souris qui sont migratrices et donc qui vont aller loin entre leur gîte estival et leur gîte hivernal.
D'accord, mais elles volent, elles se déplacent pas du branche en branche, en marchant, enfin en restant accrochées.
En fonction des espèces, elles vont pas avoir le même type de vol. On va avoir des espèces comme le rhinolophe qui vont un peu papillonner au niveau des feuillages, parce qu'elles vont chercher d'autres insectes qui se retrouvent proches des feuillages. D'autres espèces plus grosses, comme les noctules, elles vont avoir un vol, elles vont utiliser la cime des arbres, elles vont voler au-dessus des arbres, très haut. Et donc elles sont souvent avoir par les éoliennes, c'est ça le problème.
Ah oui.
Le problème avec les éoliennes.
Il y a moyen de les éloigner peut-être, non, justement en utilisant des sons, enfin les ultrasons ou non?
C'est en étude, mais pour l'instant elles en pâtissent un peu.
Parce que sinon leur système de déplacement est connu quand même, c'est le... À part la vue justement, c'est l'écholocation, c'est ça? Enfin, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne?
En fait... elles utilisent l'écholocation ou écholocalisation, les deux termes se disent. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont émettre des cris, des ultrasons. Et l'onde, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, il va y avoir l'onde qui va se propager et jusqu'à atteindre un insecte. Donc après, l'onde, elle se reflète, elle retourne vers la chauve-souris. Et comme ça, la chauve-souris peut savoir exactement la distance qu'elle a à parcourir pour aller jusqu'à l'insecte, si l'insecte est immobile ou en mouvement. La taille de l'insecte également, pour savoir si c'est une proie qu'elle pourrait aimer, etc.
C'est incroyable, hein.
C'est hyper intéressant.
Parce que vraiment, un insecte, c'est pas gros quand même, donc on imagine la sensibilité de leur appareil de... Enfin, je sais pas, c'est un appareil auditif, on peut appeler ça comme ça.
Oui, elles peuvent émettre les ultrasons par la bouche ou par le nez. Par exemple, le grand rhinolophe, il émet par le nez, ces ultrasons.
Et alors, on a l'image d'une chauve-souris avec une tête un peu écrasée. Là, toutes les chauves-souris ont un peu cette tête-là, non?
Non, il y en a des très très mignonnes. En tout cas, le grand rhinolophe, il a une feuille nasale, donc un peu le nez écrasé, et il va se recouvrir dans ses ailes. C'est très facile de le reconnaître chez soi. Il va avoir la tête en bas, recouvert dans ses ailes, avec un nez un peu, avec une feuille nasale, un nez en fer à cheval, on dit. D'autres espèces, non, ils ont juste un petit museau. Très mignonne, ouais, c'est très mignon.
Les chauves-souris, donc vous les observez, vous les comptez à Bretagne Vivante. Enfin, qu'est-ce que vous faites exactement, justement, sur les chauves-souris?
On suit les colonies dans le cadre de l'Observatoire des mammifères de Bretagne. Donc ça, c'est un suivi qu'on fait en coordination avec le groupe mammalogique breton, le GMB, et un grand réseau de bénévoles. Donc ce qu'on fait l'hiver, c'est qu'on va dans les gîtes. Moi, je travaille dans le Morbihan. On fait trois passages, un début décembre, début janvier et début février, pour pouvoir compter les chauves-souris dans leur gîte hivernal et voir si elles se déplacent d'un gîte à l'autre. On a un programme de recherche sur le grand murin, c'est une espèce en particulier, où on suit quelques colonies et on leur met des sortes de petites puces, on appelle ça des transpondeurs, qui leur permet de leur donner un identifiant unique. Et comme ça, l'hiver, on passe juste à côté avec un détecteur et on peut savoir exactement de quelle colonie elle provient, si elle a une puce, et savoir si elle a bougé aussi au cours de l'hiver. Est-ce qu'elle utilise différents réseaux de gîtes l'hiver ou est-ce qu'elle va rester au même endroit ?
Et alors, dans l'ensemble, elle bouge beaucoup, ces murins.
Ça peut bouger, effectivement.
Elles quittent parfois leur groupe pour un autre groupe.
Oui, elles ne restent pas forcément avec les mêmes individus d'une même colonie.
Ah oui.
Ouais.
Bon, mais on ne sait pas tellement pourquoi, évidemment.
Non, c'est encore en recherche.
Oui. Et oui, parce que vous m'expliquez donc que les hors antenne, que les chauves-souris peuvent vivre très longtemps, c'est ça.
Oui.
Et il y a une raison génétique à ça.
Oui, par exemple, le grand murin, il peut vivre jusqu'à 20-30 ans. Ça dépend. Et en fait, elles ont. En fait, au niveau des chromosomes, l'extrémité, au niveau des télomères, au cours de la vie d'une personne, eh ben, ça se détruit, ça se renouvelle pas.
Ce qui fait qu'on vieillit.
C'est normal. Et elles, les chauves-souris, sont capables de restaurer leurs télomères. Et du coup, il y a plein de programmes de recherche qui sont sur les chauves-souris pour mieux comprendre comment elles font pour vivre aussi longtemps. Parce que normalement, les petites espèces, ça ne vit pas très longtemps. Et elles arrivent quand même à vivre 20-30 ans. Donc, pas mal de programmes de recherche. Et donc, il y a plein de choses à découvrir encore sur les chauves-souris. Et donc, on fait, avec notre programme de recherche, on fait aussi des analyses de sang, de poils, pour savoir, pour essayer de comprendre, en fait, comment c'est possible qu'elles vivent aussi longtemps.
Oui. Donc, vous, Bretagne Vivante, en tout cas, participe à beaucoup de programmes. C'est pas seulement de l'observation, en fait.
On fait de l'observation et des programmes de recherche, également, sur le Grand Murin. On met également des GPS sur les Grands Murins, dans le Morbihan, et aussi un peu dans le 35, en Ille-et-Vilaine. Pour déterminer quelles sont leurs zones de chasse. Donc ça, c'est plutôt pour essayer de préserver leur milieu naturel autour des colonies qu'on connaît l'été. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur pose, on les capture. On a des habilitations à la capture. On leur pose...
Avec des filets, c'est ça ?
C'est ça, avec des filets. Mmh. Souvent, ça va être ce qu'on appelle des filets japonais, un peu comme pour les oiseaux. On étend un filet, après, elles se prennent dedans. On leur pose un GPS. Et ça permet de suivre leur mouvement depuis leur colonie. On les suit pendant trois nuits à peu près, et après le GPS tombe. Et donc, on les suit, on regarde quel corridor elles vont utiliser, quel chemin elles vont utiliser pour aller jusqu'à leur zone de chasse. Est-ce qu'elles en ont plusieurs ? Est-ce qu'on en a qu'une seule ? Est-ce qu'elles utilisent aussi la même zone de chasse au sein d'une même colonie ? Et on se rend compte, en tout cas pour le grand murin, dans les colonies qu'on suit, que chaque chauve-souris va avoir son propre terrain de chasse.
Et c'est grand, enfin, ça peut être loin
Elles peuvent faire, je crois, 20 km à peu près de leur colonie.
Par nuit ?
Par nuit. Certaines.
Ah oui,
en fait, on a des chauves-souris qui vont aller très loin chasser et d'autres qui vont chasser juste à côté. On a eu une chauve-souris qui a chassé juste à côté, dans une allée forestière, juste à côté de son gîte, pendant toute la nuit, pendant trois nuits entières. Elle a chassé tout le temps au même endroit. D'autres vont chasser loin. Certaines vont avoir plein de zones de chasse. Leur zone de chasse préférée, peut-être, où elles retournent plusieurs fois. Et d'autres zones de chasse après... un peu moins importante.
Mais on imagine qu'elles se répartissent. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'espèces sociales quand on parle des chauves-souris autant que les fourmis, les abeilles, les humains
En tout cas, elles communiquent entre elles. Donc là, on a parlé des cris sonars, les ultrasons, mais elles sont capables également de discuter entre elles. On appelle ça des cris sociaux. Et ça, c'est des cris qui sont audibles par l'homme.
Ah oui.
Normalement,
on peut quand même parfois entendre les chauves-souris.
Oui, on peut les entendre. Et les espèces de haut vol aussi, elles émettent assez bas. Donc on peut les entendre, mais il faut avoir encore une bonne oreille. Et les ultrasons, oui, on est capable souvent dans la nuit, on peut entendre des pipistrelles qui se parlent entre elles en début de nuit. Ça, c'est possible.
Et sinon, vous enregistrez les ultrasons et vous les écoutez lentement, c'est ça
En fait, on suit le protocole du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et c'est un protocole Vigiquiro. Donc ce qu'on fait, c'est en été et en automne, on va poser pendant trois nuits des enregistreurs passifs. Donc on va les poser et après on les récupère. Et on les étudie avec des logiciels spéciaux pour avoir une idée des espèces qui sont présentes. Quand est-ce qu'on les capte durant la nuit ? On peut savoir ça aussi. Et leur activité en fonction du nombre de contacts qu'on a eu.
Ah oui. Et vous avez une banque de sons.
C'est ça.
Chiroptère. Enfin, chiroptère, c'est le nom des chauves-souris. Hein, général, les chauves-souris. Quoi.
D'ailleurs, chiroptère, ça veut dire main ailée. Ça vient de chiro, la main, comme chiropracteur. Et ptera, les ailes.
Eh oui, bien sûr, puisque c'est des doigts, enfin c'est des prolongements de doigts.
C'est
en
ça, fait, c'est des doigts, ils ont des très longues phalanges.
Alors, il nous reste deux minutes là pour faire un petite revue de détails des idées reçues sur les chauves-souris auxquelles il faut mettre fin. Sarah Costard, allez-y.
Eh bien déjà, les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux. Effectivement, elles ont, grâce à leurs ultrasons, elles peuvent très bien repérer nos cheveux et donc elles nous évitent très facilement.
Oui. Si elle repère les petits insectes, voilà, elles peuvent
c'est
repérer
ça.
Un cheveu.
Et ça, c'est une légende qui est assez vieille, qui était faite pour que les jeunes femmes ne sortent pas la nuit. Donc on leur disait, non, faut pas sortir la nuit parce que sinon il va y avoir des chauves-souris qui vont vont aller dans vos cheveux. Donc non, faut pas sortir.
Ouais, encore un coup des misogynes, sympa.
Et donc oui, on a pu discuter de ça tout à l'heure aussi. Donc elles vont pas faire de nid, elles vont pas dégrader l'isolation des maisons. Donc ça, il y a aucun risque pour ça. Et d'ailleurs, les crottes de chauves-souris, ça s'appelle le guano. Donc si jamais vous avez des colonies chez vous, vous pouvez réutiliser votre guano pour faire de l'engrais pour le jardin.
Voilà, c'est ça. C'est pas spécialement corrosif.
Non. Et puis, si jamais il y a vraiment des gènes, on peut mettre des bâches aussi. Mm. Et c'est le guano n'est pas corrosif, c'est plutôt l'urine qui peut, au fur et à mesure du temps, s'il y a des très très grosses colonies, peut-être poser des problèmes. Mais là, on peut discuter entre nous et avec le fait d'appeler des associations comme la nôtre, ça permet de mettre en place des dispositifs pour qu'il y ait cohabitation entre les chauves-souris et les habitants.
Bretagne Vivante vous aidera en plus de nous instruire une fois par mois dans cette émission. Merci beaucoup Sarah Costard. Et on vous retrouvera peut-être une prochaine fois pour ce monde merveilleux des chauves-souris ou d'autres.
Hein.
Et voilà, c'est la fin de ce LEM que vous pourrez réécouter sur le site internet de la radio. Restez avec nous, les ondes ne s'arrêtent jamais.